dans votre émission de Radio Capi, intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer à revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Maggie Libebele, elle est journaliste indépendante évoluant à Kisangani, elle est directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem Chopo. Bonjour Madame Maggie Libebele.
Bonjour Dimate, bonjour aux auditeurs de la radio Kati.
Ben Clette Kankonde, journaliste, il est éditorialiste du journal Le Potentiel paraissant à Kinshasa. Bonjour Monsieur Ben Clette Kankonde.
Bonjour Guy et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Et Marcel Ngoy, journaliste, il est éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa. Bonjour Monsieur Marcel Ngoy.
Bonjour Guy Maté, joyeux Noël.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Maggie Libebele, journaliste indépendante évoluant à Kisangani et directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes et des médias Ikofem Chopo. Ben Clette Kankonde, journaliste, il est éditorialiste du journal Le Potentiel paraissant à Kinshasa. Et Marcel Ngoy, journaliste, il est éditeur du journal La Prospérité paraissant aussi à Kinshasa. On va commencer par un commentaire sur la conférence des gouverneurs dont les travaux se sont clôturés ce vendredi à Mbandaka, province de l'Équateur. La 9e conférence des gouverneurs de la RDC qui s'est ouverte jeudi à Mbandaka sous le thème « Les programmes de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Présidée par le chef de l'État, cette rencontre a offert l'occasion à chaque gouverneur de province de présenter l'état des lieux de son entité administrative et surtout les perspectives pour l'année 2023. Cette conférence a notamment planché sur la relance des économies des provinces. Madame Maggie Libebele, comment vous réagissez à cette approche qui consiste à réunir régulièrement les gouverneurs des provinces pour parler des problèmes que connaissent ces provinces?
Merci beaucoup, Guimaté. Je pense que c'est une bonne chose quand les gouverneurs de province se réunissent comme ça pour parler des problèmes de chaque province. Chacun va présenter son état des lieux. Oui, comme on parle de développement, vous savez vraiment que ça tombe à pic parce que si je vois dans ma province ici, je vois seulement les infrastructures de notre province. Donc, ça pose déjà problème pour l'économie. Et ça risquerait dans les jours à venir que même la province de la Chopo soit enclavée et qu'on n'ait pas à voir peut-être de marchandises qui viennent, par exemple, dans des provinces voisines, qui le Nord Kivu et pourquoi pas l'Ituri et même les Bakou et les... Voilà un peu pour moi ce que je pourrais dire que c'est vraiment cette conférence qui tombe à pic. Et si vraiment on prend au sérieux tout ce qu'on va dire là-bas comme résolution, et qu'on vienne mettre ça en pratique pour que les provinces puissent décoller, et ça sera une bonne chose, et surtout que nous approchons d'une année électorale. Voilà, Dimaté, ce que je pouvais dire par rapport à cette conférence.
Merci, Ben Clette Kankonde. C'est la 9e conférence des gouverneurs, et s'il faut évaluer l'impact de toutes ces conférences sur la marche de ces provinces, que diriez-vous, Monsieur Ben Clette Kankonde?
Oui, la 9e conférence des gouverneurs de province est la 2e pour le président Tshisekedi. On se rappelle que la fois dernière, quand il a réuni les gouverneurs à Kananga, chacun a pu exposer vraiment ses problèmes. Et tous ont eu vraiment l'occasion d'apprendre l'expérience des uns des autres. Et ça, c'est très important, effectivement, pour la bonne gouvernance. Et ici, le problème, c'est que le président, avec le gouvernement central, ils ont initié le programme de développement local au profit des 145 territoires. Qu'est-ce qui doit être fait? Comment ça sera fait? Et je crois que c'est tous ces problèmes qui ont été abordés au cours de cette conférence. Et on tient ce que le président a dit à la fin. Il dit, vous les gouverneurs, vous serez jugés par les résultats. Parce que le gouvernement central, qui a conçu le programme de développement des 145 territoires, a aussi pensé mettre à la disposition les moyens financiers qui accompagnent l'exécution de ce programme. Alors, vous, les gouverneurs, et les autres autorités, ne soyez pas distraits par les querelles qui caractérisent souvent le fonctionnement des exécutifs provinciaux. On a vu, depuis le début de la mise en place des assemblées provinciales, aucune province n'a été épargnée. Toutes ont été affectées par les querelles entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Dans chaque province, il y a eu permutation ou élection de nouveaux gouverneurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le président a insisté. Il a aidé les gouvernements provinciaux à se stabiliser un peu pour que les deux dernières années, qu'il n'y ait pas ces troubles au niveau de la gouvernance provinciale. Sauf, comme il a dit, la province du Maniema et la province du Sud Kivu. Mais alors, quand il dit au gouverneur, vous serez jugé par les résultats, c'est parce que les moyens qui seront mis à la disposition, les moyens financiers, avec les agences qui sont recrutées, il ne faut pas que ça se disperse. Il ne faut pas que ça se disperse et que le gouverneur, au bout de deux ans, vienne raconter, ah, je n'ai pas travaillé parce que j'ai été emmerdé par les assemblées provinciales. Et les assemblées provinciales doivent aussi prendre à cœur leur responsabilité. Ce n'est pas d'emmerder le gouverneur, mais c'est de suivre sa gestion, de l'aider à bien gérer. Voilà au moins ce que je retiens. Vous serez jugé par les résultats. Ça, c'est un mot d'ordre que les gouverneurs doivent intérioriser.
Merci, M. Marcel Ngoï. Cette conférence s'est penchée sur la relance de l'économie de ces provinces, mais selon certains experts, aussi longtemps que le gouvernement central ne permettra pas aux provinces de retenir à la source les 40% de leur production mensuelle, ces provinces ne seront pas en mesure de financer leurs projets de développement et donc de booster leurs économies. Et est-ce qu'on ne pouvait pas profiter de cette occasion pour permettre cette fois-ci aux provinces de retenir à la source les 40% de leurs recettes?
Non, les deux peuvent se faire. Retenue à la source, c'est une procédure. Et tout comme la rétrocession, c'est la procédure qui est en vigueur. Ce qu'il faut, c'est réellement que le gouvernement central rétrocède aux provinces le 40% qu'il est réduit dans les recettes réalisées. C'est ça le vrai problème. Vous verrez que nous sommes à la 9e conférence. Depuis que cela a commencé, c'est la routine. Les provinces ont le même type de problème. On en avait 11. Maintenant, on en a 26. Donc, sur les provinces qui ont été démembrées, on a maintenant comme les provinces 7 qui sont là, avec le même type de réalité, le même type de difficultés. Comment relancer l'économie sans moyens? Comment relancer l'économie avec les infrastructures qui sont délabrées? Comment relancer tout ce qu'il y a comme travail sans moyens de production? Moi, je crois que le vrai problème de ces provinces, c'est aussi le fait que ces provinces doivent elles-mêmes prendre conscience qu'il faut mobiliser suffisamment de ressources et qu'en même temps que le gouvernement central doit être en mesure de rétrocéder à ces provinces ce qu'il est réduit pour pouvoir booster leurs économies, pour pouvoir relancer leurs activités. C'est ce qui doit se faire. Moi, je crois aussi également que la conférence de gouverneurs ne doit pas être un cénacle où les gens viennent se raconter simplement des expériences. Parce qu'on suppose que chaque province a ses problèmes spécifiques. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir est que c'est la mise en œuvre de toutes les résolutions qui ont été prises. Parce qu'on a l'impression que c'est la ritournelle. On se voit aujourd'hui, on se réunit aujourd'hui, on prend des résolutions dont la mise en œuvre souffre dans les tiroirs, dans les pupitres. Et nous pensons que principe. Si le président de la République a pris à cœur l'idée de remettre autour, de mettre autour de lui tous les gouverneurs, c'est parce qu'il veut cerner les vrais problèmes qu'il connaisse déjà, parce qu'il a déjà fait le tour de la République d'une manière ou d'une autre, qu'il soit président ou avant qu'il ne soit président, il a déjà fait le tour. Les formes ont tendance à se répéter. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment la volonté politique du gouvernement central, mais aussi la participation effective des provinces au programme de développement. Alors, il y a un aspect des choses. En ce qui concerne le programme de 145 territoires, les gouverneurs ne vont pas accéder aux ressources financières. Il y a des agences d'exécution qui doivent exécuter les projets qui font l'objet des appels d'offres. Ce sont les agences d'exécution qui vont voir et sélectionner les entreprises qui doivent mettre en œuvre ces programmes dans le sens de la réhabilitation des infrastructures sanitaires, des infrastructures routières et consorts, dans le sens de la réhabilitation des écoles, bref, dans tous les programmes qui sont prévus pour le développement de 145 territoires. Mais il y a des provinces qui sont, les territoires qui sont oubliés. Donc il y a des cas de provinces qui sont oubliées, des territoires qui ont été oubliés. Moi, je pensais que c'était aussi une occasion pour qu'on voit. On a dénombré 145, mais il y a des territoires qui réclament, qui ne sont pas reconnus dans les 145. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, les agences d'exécution doivent choisir les opérateurs d'exécution qui pourront leur permettre de réaliser ces infrastructures dans les meilleures conditions. Il ne faut pas qu'on ait des travaux bâclés. On choisit il y a des agences d'exécution. En même temps, il y a des maisons qui doivent exécuter ces projets. Il ne faut pas que les travaux soient bâclés. On doit tenir compte du timing de réalisation, de la qualité du travail à réaliser, du coût que cela comporte pour que l'argent ne puisse pas être jeté par la fenêtre. On a toujours eu des programmes financés par la Banque mondiale, le Fonds monétaire et tout ça. La plupart des programmes ne sont toujours pas bien exécutés. On a des infrastructures aussi sur la route et exécutées sur certains bailleurs dont la qualité des travaux laisse à désirer. Tout ce que nous pensons, nous, à ce stade, est que le gouverneur s'assume. Ils seront jugés à la pièce selon les que le président leur a dit, mais le président lui-même sera aussi jugé. La pièce, parce que d'ici là, il sera comptable de ses actes pendant 5 ans. Donc nous pensons que dans ce cadre-là, c'est lui effectivement qui va exercer la police pour pouvoir inventorier qu'est-ce qui a fait quoi, mais lui-même doit aussi présenter une situation d'ici l'année prochaine. Vous avez eu 5 ans, qu'en avez-vous fait?
Merci Marcel Ngoï. Une autre actualité, c'est ce rapport des experts des Nations Unies qui confirme les allégations selon lesquelles le Rwanda apporte de l'assistance aux rebelles du M23. Monsieur Bentlet Kankonde, ce rapport vient d'affirmer ce qui a déjà été affirmé dans les rapports passés. À votre avis, quel pourrait être son mérite?
D'abord, il n'y a rien de neuf. Ces rapports ont été déjà diffusés, rendus publics, peut-être de manière informelle, il y a longtemps. Et les rapports des experts des Nations Unies, ils sont vraiment en circulation libre. Le problème, c'est que c'est le Conseil de, les membres, quelques membres permanents du Conseil de sécurité ont voulu tout simplement mettre l'embargo sur ce rapport pour qu'il ne soit jamais divulgué, pour qu'il ne soit jamais connu. Heureusement que la pression de la République démocratique du Congo, le peuple, le gouvernement, les associations, les politiques, donc tout le monde s'est mis pour que les trois membres occidentaux du Conseil de sécurité comprennent qu'il y a danger s'ils ne libèrent pas ces rapports. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on nous dit ce que nous savions déjà. Donc il n'y a rien de neuf pour nous, mais ce que nous aimerions maintenant savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a organisé des razzias dans notre pays, qui a organisé des massacres dans notre pays, qui a organisé des pillages monstres dans ce pays. Et puis, c'est presque 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Comment on doit les sanctionner? Parce qu'on entend toujours le Conseil de sécurité, les Nations Unies, l'Union Européenne se précipiter à sanctionner des individus qui auraient commis les mêmes délits. Mais maintenant, puisque nous avons attrapé quelqu'un, la main dans le sac, c'est Kagame. Je ne dis pas le Rwanda. Il faut faire toujours les distinguos, parce que tous les Rwandais ne pensent pas comme nous. Donc, c'est Kagame. Quel sort, quelle sanction il va mériter? C'est ça que nous attendons aujourd'hui. Parce que nous, qui avons perdu, nous avons des milliers de morts, nous avons des milliers de tonnes de nos ressources qui ont été transportées, qui ont été exportées frauduleusement, par Kagame et sa bande, tout ça, comment nous devons être indemnisés, nous, peuple congolais? Voilà la vraie question.
Merci Madame Magui Libébélé. Je vous pose la même question que j'ai posée à Monsieur Ben Claude Kankondé. Et à votre avis, quel pourrait être le mérite de ce nouveau rapport qui ne donne pas de nouvelles révélations, qui vient plutôt confirmer ce qui a été dit dans les rapports passés? C'est quoi, à votre avis, le mérite de ce nouveau rapport?
Oui, vous savez, moi je dirais que le mérite, c'est d'abord en rapport avec cette diplomatie de la République démocratique du Congo. Ça a vraiment avancé, ça a commencé à bouger des choses au niveau international. Mais ce que nous attendons en retour et que nous voyons, comme a dit les confrères, qu'on puisse sanctionner les auteurs de tous ces crimes qui nous mettent toujours en mal ici en République démocratique du Congo. À l'interne, on prend même des décisions au niveau international de sanctionner les gens, tout ça, mais à l'externe, où les gens qui sont entrés en relation avec les gens qui massacrent des milliers de populations dans notre pays, on ne fait rien. Et c'est comme a dit le confrère, on a toujours eu l'habitude d'entendre ça, on décrit au niveau international, mais ce que nous attendons, c'est la sanction, qu'on puisse sanctionner les auteurs de ces crimes, c'est ça qui va un peu soulager nous, la population de la République démocratique du Congo.
Merci Monsieur Marcel Ngoï. De plus en plus, les gens, n'est-ce pas, réclament des sanctions à l'endroit du Rwanda. Et vous pensez que la communauté internationale peut aller jusque-là?
Nous pensons que la communauté internationale dispose de tous les moyens nécessaires, non seulement pour sanctionner à l'aveuglette, mais il faut commencer par juger les auteurs qui sont responsables de toutes les atrocités, de toutes les cruautés auxquelles les Congolais ont été exposés pendant autant d'années, plus de deux décennies, on en est autour de 25 ans. Donc nous pensons qu'il faut non seulement les identifier, parce qu'il faut avoir une vue holistique de tout ce qui s'est passé en termes de préjudices subis pendant autant d'années, identifier les gens qui ont posé ces actes, avec Kagame bien sûr, qui a été déjà nommément cité dans différents rapports, mais il faut arriver à les juger et puis condamner. Mais au-delà de la condamnation, il faut exiger la réparation. La réparation. Nous ne pouvons pas accepter qu'en ce siècle ici, qu'un président, d'un pays voisin puisse quitter son pays pour fabriquer de toutes pièces de milices ou les gars qu'il envoie dans un autre pays pour troubler l'ordre, détruire, décimer. Aujourd'hui, nous avons des populations qui sont soumises à l'errance, qui sont exposés aux morsures de serpents et de mollusques. Et vous pensez que cette population qui serpente des montagnes du Kivu, qui aujourd'hui sont sans abri, la facture est très salée en termes de préjudices. Nous pensons que la communauté internationale dispose de tout un arsenal qui peut être institué. On peut aller plus loin. Si par la CPI, on peut instituer tout un tribunal pour pouvoir aujourd'hui juger les auteurs de ces crimes, qui sont des crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles. Nous considérons que si aujourd'hui on peut reconnaître un mérite à ces rapports, c'est justement cette volonté, cet acharnement avec lequel le président de la République a dénoncé ces atrocités, ces cruautés du haut des Nations Unies, de la tribune des Nations Unies et dans toutes les instances. Le président a pris le courage. Moi, je crois qu'il faut le féliciter pour cela. Et il a été rejoint par les églises, par toutes les associations et par l'ensemble du peuple congolais dans la rue. Et c'est cette pression des rues qui aujourd'hui a contribué favorablement à l'avancée. Et nous considérons, nous les réclamons à corps et à cri. Nous pensons que l'occasion qui est donnée aujourd'hui est de ne pas seulement gérer des documents, mais aussi de les traduire dans les faits. L'heure est arrivée de dire tout haut ce que Kagame fait chez nous et de lui exiger des réparations nécessaires tout en le condamnant. Merci. Je pense qu'il ne faut plus observer être des custres à la langue de bois, continuer à pleurnicher. L'heure n'est plus au pleurnichage. Il faut sortir de là pour exiger que la communauté internationale active les mécanismes. Il y a tout un comité de sanctions. On a qui a toujours infligé des sanctions ciblées. Qu'a-t-on fait aujourd'hui des Kagame et de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, écument des pans entiers du territoire congolais? Merci. Moi, je crois que la communauté de sanctions, elle a les moyens. Oui. En Ukraine, ils le font. Ils se déploient de ce côté-là. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Et puis là-bas, ce sont des milliards. Ici, on nous parle de quelques millions qui ont fait ça. Mais là-bas, c'est des milliards qu'on investit. Si on a besoin vraiment, comme on est arrivé à lever la notification, l'exigence de la notification préalable pour voir les actes. Je pense qu'il faut aller plus loin jusqu'à pouvoir décourager ce type d'actes pour que ça ne se répète plus.
Merci. Et lui a beaucoup chanté pour l'Afrique. C'est l'artiste et musicien de la République du Congo, Franklin Bukaka. On l'écoute dans Aïe Africa et on revient juste après. Franklin Bukaka était un chanteur, guitariste et auteur-compositeur congolais, spécialiste de la rumba et du soukous. Il a été exécuté à l'âge de 31 ans en février 1972 après avoir été arrêté et accusé d'avoir été impliqué dans un complot qui visait le camarade Marien Ngouabi, ancien président de la République du Congo. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs démarre ce samedi 24 décembre pour la première aire opérationnelle composée des 10 provinces. Il s'agit des provinces de l'Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chuapa. L'annonce a été faite dimanche 18 décembre dernier par Madame Patricia Nseya Moulela, rapporteur de la CENI au cours d'un plateau spécial organisé dans les installations de la centrale électorale à Kinshasa. D'après la CENI, cette opération dans ces provinces précitées durera 30 jours, soit un mois dans chaque aire opérationnelle. Toujours selon cette institution, près de 50 millions d'électeurs sont attendus dans les centres d'inscription. Madame Magui Libebele, vous êtes journaliste indépendante évoluant à Kisangani. Vous êtes aussi directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Tchopo. Vous avez opté pour ce sujet sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et pourquoi ce choix, Madame Magui Libebele?
Oui, parce que c'est vraiment un sujet qui est d'actualité et c'est vraiment un sujet qui touche toute la population de la République démocratique du Congo, parce que les élections, c'est quelque chose qui vient chaque 5 ans et qui aide le peuple congolais à aller voter les acteurs, les nouveaux acteurs politiques en fait. C'est pourquoi nous on s'est dit que vraiment il faut que tout le monde soit en mouvement à ce moment-là, que ce soit les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, tout le monde à son niveau puisse s'investir à ces opérations-là, pour que ça puisse réussir ici dans notre pays. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. J'ai voulu parler de ça parce que vraiment, c'est un sujet du jour et que ça crée des débats ici parmi la jeunesse, parmi les associations des femmes et pourquoi pas des politiques ici à la Tchopo, plus précisément ici dans la ville de Kisangani. C'est pourquoi j'avais voulu parler de ça. Vraiment, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, qui est aussi les gens, par rapport à des nouveautés, par exemple l'application qu'on a insérée cette fois-ci, comment ça va se passer, combien déjà par exemple ont des Android pour aller s'enregistrer, savent manipuler ça, est-ce qu'il n'y aura pas de problème par rapport à la connexion Internet qui ne sont pas installées par-ci par-là, même dans les recoins de la République démocratique du Congo. Voilà beaucoup de questionnements et aussi Il y a les autres qui disent par rapport au comportement des acteurs politiques déjà choisis les années passées, est-ce qu'il faut encore aller s'enrôler pour leur donner nos voix? Que faire? Voilà, Guy Maté, ce que je pouvais dire par rapport à cette actualité ici chez nous dans la province de la Tchopo.
Merci Ben Clet Kankonde, vous êtes journaliste et éditorialiste du journal Le Potentiel, paraissant à Kinshasa. 50 millions d'électeurs, c'est ce qu'attend la CENI à l'issue de cette opération qui va durer 3 mois. Mais certains observateurs estiment que ce délai n'est pas réaliste. Et à votre avis, quels sont les atouts que peut détenir la CENI pour relever ce défi?
Voilà. D'abord, le rapport, l'annuaire statistique de la République, édité en 2020, nous indique que nous avons 98 millions de Congolais. Donc 98 millions, c'est presque 100 millions d'habitants. Or, la CENI attend 50 millions pour l'enregistrement. C'est vrai que la mise en place de ce nouveau directoire a fait poser beaucoup de problèmes, soulever beaucoup de passions. Mais maintenant que la CENI, la commission, nous montre que on peut commencer des affaires sérieuses avec l'enrôlement demain, je crois que nous pouvons maintenant nous apaiser. C'est surveiller seulement ce qui va se passer. Alors, surveiller ce qui va se passer, c'est-à-dire que nous tous, nous avons des responsabilités. Nous tous, nous ne sommes pas candidats. Mais tous, nous serons électeurs dans les 50 millions. C'est qu'il faut maintenant au niveau de la presse, au niveau des acteurs politiques, au niveau de la société civile, nous devons avoir, et même le gouvernement devons avoir des comportements qui accompagnent effectivement cette opération, cette série d'opérations jusqu'au jour de scrutin. Pour la presse, il faut nous dire d'abord, nous, parce que ça c'est dans mon secteur, nous devons voir que le calendrier électoral a été rendu public. Donc, rendu public, c'est qu'il doit être vulgarisé. Il l'est en ce moment. Alors, nous, de la presse, nous devons éviter de commencer les campagnes électorales de nos candidats avant l'heure. Et les acteurs politiques aussi doivent savoir que la loi est faite pour réprimer ceux qui la défient. Donc, une fois que la loi, le calendrier électoral est publié, le calendrier électoral prévoit le jour, le début de chaque campagne électorale au niveau de chaque mandat. Donc nous devons respecter toutes ces choses. Nous de la presse, nous ne devons pas commencer à la campagne maintenant au profit de nos amis. Les acteurs politiques ne peuvent pas y aller maintenant en disant non, moi je prends l'avance sur les concurrents relatifs de ma circonscription électorale. Là, nous sommes en train de violer la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit frapper. Alors nous, de la presse, nous devons nous interdire en ce moment-là d'évoquer des alibis. Ah non, le pouvoir réprime, la liberté d'expression n'existe pas, la liberté d'opinion n'existe pas, parce qu'on a arrêté un journaliste, parce qu'on a fermé un média. Non. Le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Un candidat député, un candidat président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Nous devons tous respecter les lois. Ce sont les lois de la République. Ce n'est pas les lois d'un parti politique. Et ces lois ont toujours existé. Ici comme ailleurs, ça existe, il faut les respecter. Donc, la campagne électorale a des dates qui sont déjà calées et les médias, les acteurs politiques, le gouvernement, tout le monde doit respecter ces échéances pour ne pas tomber dans l'erreur. À moins que vous soyez un sorcier, en disant, je suis journaliste, je suis candidat président, je suis candidat député, moi je vais créer des problèmes, commencer ma campagne maintenant, et dès que la police met la main sur moi, je vais crier, alerter le monde entier, RFI, Voix de l'Amérique, le BBC, ah ici, le pouvoir est dictatorial, et on ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, je crois que même les ONG des droits de l'homme doivent commencer à éduquer les gens maintenant.
Merci.
Voilà au moins c'est ce que je peux dire à ce niveau. Donc, le chemin est balisé. Préparons-nous. Tous, on y va. On va voir ce qui va arriver à chemin. Respectons surtout les lois de la République.
Merci. Marcel Ngoy, est-ce que vous êtes là?
Je suis en ligne.
Je rappelle que vous êtes journaliste et éditeur du journal La Prospérité, paraissant à Kinshasa. C'est au moment où le nombre d'électeurs augmente que la CENI réduit la durée des opérations d'identification et d'enrôlement. Comment vous comprenez cela, M. Marcel Ngoy?
Oui, le président Denis Kadima a dit qu'il va recourir aux technologies de pointe qui vont faciliter la tâche à la CENI, notamment en ce qui concerne l'enrôlement. Il y a même des gens qui pourraient s'enrôler en ligne s'ils veulent. Mais ce qui est important, c'est de se rendre sur place dans les centres d'enrôlement, parce que en dehors de la carte d'électeur, il sera également aussi délivré, sur base des mêmes renseignements, on pourrait délivrer la carte d'identité par l'ONIP. Les deux structures, l'ONIP et la CENI, vont travailler dans ce qu'on appelle en synergie ou la mutualisation, de sorte que les données qui seront présentées par chaque candidat à l'enrôlement, ces données-là vont être co-utilisées, chacune des institutions les utilisant selon ses besoins. L'autre pour délivrer la carte d'identité, tandis que l'autre pour délivrer la carte d'électeur. C'est donc important pour nous d'insister sur le fait que les élections qui constituent l'unique mécanisme démocratique pour entrevoir un changement pacifique à la tête du pays, dans l'ensemble des institutions, ces élections qui constituent également les moyens pour sanctionner négativement ou positivement les gestionnaires de la République, ces élections-là constituent un tournant décisif, dans la mesure où aujourd'hui, on a aujourd'hui des candidatures qui se déclarent à gauche, à droite, en même temps que devant le pays, il y a des difficultés, il y a beaucoup de difficultés qui s'amoncellent, notamment cette affaire de l'insécurité et du territoire qui est si vaste, avec des infrastructures qui sont en état d'élaborement très avancé. Donc les défis sont immenses, ainsi que l'avait rappelé d'ailleurs le président Dedi Karim. Donc nous pensons que si on a raccourci les délais, la CENI a certainement des raisons pour cela, mais ce qui est bon est que le fichier électoral qui pourrait sortir puisse subir un audit à la fois interne et externe, de façon qu'on puisse le fiabiliser et que sa cartographie soit géospatialisée, de sorte qu'au finish, qu'on ne puisse pas douter du nombre d'électeurs qui vont effectivement aller aux urnes le 20 décembre 2023. Donc c'était une étape importante. Je ne sais pas comment la CENI va s'y prendre, parce qu'à l'époque, il y avait la contribution de la MONUSCO, la contribution de beaucoup de bailleurs, mais jusqu'ici, c'est le Congo seul qui a dégagé les moyens. Je ne sais pas comment les autres opérations seront financées, parce que jusqu'ici, c'est comme si les autres continuent à poser conditionnalités pour sortir de l'argent et appuyer la CENI dans ces efforts-là.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, c'est ce vendredi qu'ont eu lieu les obsèques d'Elisabeth Tchalamouana, la Mamou nationale, cette icône de la musique congolaise et moderne qui nous a quittés samedi 10 décembre dernier ici à Kinshasa. Pour lui rendre hommage, on va écouter l'une de ses chansons, Vuluka Dilolo, et on revient juste après.
Vuluka Dilolo, Jiwa Kambe, Nila Chaza Ni Mwapa, Wewe Ni Yaya Kwezo, Wakupinga Na Mwkeleza. Vuluka Dilolo, Jiwa Kambe, Nila Chaza Ni Mwapa, Wewe Ni Yaya Kwezo, Wakupinga Na Mwkeleza. Meme Kusengelela,
Cette émission regarde sous l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la conférence des gouverneurs dont les travaux se sont clôturés ce vendredi à Mbandaka. Nous avons également analysé la question des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dont le lancement aura lieu ce samedi 24 décembre pour la première ère opérationnelle composée de 10 provinces. Participe à cette émission, Madame Maggie Libebele, elle est journaliste indépendante évoluant à Kisangani, elle est directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM Tchopo. Ben Clet Kankonde, journaliste, il est éditorialiste du journal Le Potentiel paraissant à Kinshasa. Et Marcel Ngoï, journaliste, il est éditeur du journal La Prospérité paraissant aussi ici à Kinshasa. Un autre fait d'actualité cette semaine, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté mardi 20 décembre dernier à New York, aux États-Unis, à l'unanimité, deux résolutions présentées par la France. La première porte sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO et la seconde sur la levée des mesures de notification d'achat d'armes par la RDC. Mais l'embargo sur les armes est maintenu contre les groupes armés. Dans une interview accordée à Radio Kapi le mardi 20 décembre dernier, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a indiqué que la résolution qui lève l'obligation des notifications pour toute fourniture d'armes, d'équipements, des formations, des conseils et d'assistance militaire au profit de la RDC est une grande victoire diplomatique pour le gouvernement congolais. Ben Clet Kankonde, dans l'une des éditions de votre journal de cette semaine, Les Potentiels, vous avez publié à sa une, n'est-ce pas, à la une du journal Les Potentiels, cette information faisant état de la levée de la mesure des notifications d'achat d'armes par la RDC. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix, Monsieur Ben Clet Kankonde?
Parce que le choix de ces sujets s'explique par le fait que le pays entier était suspendu à la décision du Conseil de sécurité. Le pays qui était envahi, agressé par le voisin Kagame du Rwanda, qui a utilisé, qui a instrumentalisé les jeunes pour attaquer le pays, tuer le pays et piller et tout ça. Je crois que nous attendions beaucoup de ce Conseil de sécurité parce que ça fait des années que la République démocratique du Congo s'emploie à crier à l'agression. Mais personne ne nous écoute. Donc la République a toujours crié dans le désert. Et on lui a interdit d'acheter des armes. Et ça, ça date des années 2000. En 2008, l'embargo a été un peu allégé parce qu'on a dit l'embargo maintenant ne frappe que les groupes armés. Mais au fait, dans la pratique, nous n'étions pas éligibles à l'achat des armes à l'extérieur. Et on nous a accusés. On a accusé les forces armées congolaises sous le président Kabila de vendre des armes aux groupes armés. Et c'est là que le Conseil de sécurité a trouvé un alibi pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas accéder aux armes parce que vos généraux, vos officiers le revendent aux groupes armés qui entretiennent l'insécurité dans l'Est. Mais depuis l'élection de Tshisekedi, les choses ont quand même changé. Les officiers qui étaient supposés vendre des armes aux groupes rebelles ont été mis tout simplement à la touche. Il y a eu une nouvelle reconfiguration au niveau de l'armée. Mais c'est au même moment que Kagame décide de venir encore nous envahir. Ce n'est pas une guerre pour prendre le pouvoir à Kinshasa. Ce n'est pas une guerre pour gérer des provinces. Mais c'est une guerre économique, rien que pour piller les ressources du sol pendant que on nous distrait avec des guerres de tuileries à gauche et à droite. Mais l'Occident, ça il faut le dire, les membres du Conseil de sécurité, ils étaient tous d'accord. Mais au moment où ils ont vu que, au niveau de la République démocratique du Congo, le peuple a pris conscience et tout le peuple s'est levé, accompagnant l'autorité suprême pour exiger que cet embargo soit levé. Je crois que les ambassades, toutes les chancelleries occidentales ici ont compris qu'il y a danger si on ne réagit pas rapidement. Je me rappelle qu'ils ont fait une communication, un communiqué conjoint qui demandait au gouvernement, aux autorités, au peuple de ne pas se focaliser sur certains membres du Conseil de sécurité. C'est parce qu'ils ont vu qu'à un moment ou à un autre, il y aurait débordement. Donc, devant cette réalité, ils ont pu influencer maintenant leur gouvernement respectif. C'est ainsi que vous avez vu l'Amérique, la première, qui dit, non, écoutez, moi, c'est Kagame le mauvais garçon. La France a suivi, l'Allemagne et l'Union Européenne. Il ne reste plus que la Grande-Bretagne qui doit aussi le dire publiquement. Pour nous, c'est une victoire. La justice est levée, mais on sent qu'il y avait un complot. Parce que chaque pays avait des intérêts avec le Rwanda. La France se rappelle qu'il y avait l'opération turquoise à l'époque du génocide. La Grande-Bretagne sait qu'elle est en train de négocier l'exportation des migrants vers Kigali. Et la France a aussi le Rwanda qu'elle veut utiliser comme bouclier au Mozambique où Total, la grande entreprise pétrolière hexagonale, est en train d'exploiter. Donc vous voyez, chacun avec ses intérêts, ils ont tout fait pour soutenir Kagame et ne jamais le citer dans notre affaire. Mais finalement, le voile est levé, le roi est nu, Kagame est dénudé, et pour nous, c'est une très bonne chose, mais nous ne devons pas crier victoire.
Merci.
Ce n'est qu'une bataille de gagner, parce que maintenant, ce qu'il nous faut, c'est comment nous pouvons rentabiliser l'accès aux armes pour que nos militaires soient plus forts. Le Congo, c'est 96 millions d'habitants, tandis que le Rwanda, c'est 13 millions d'habitants. 13 millions, c'est comme la ville de Kinshasa. Heureusement qu'on a commencé à recruter, mais il faudrait qu'il y ait une discipline, qu'il y ait vraiment une sélection dans tout ça.
Merci. Maggy Libébélé, l'une des reproches formulées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la RDC, et M. Ben Kled Kakonde a commencé à relever cet aspect, c'est notamment le fait que les armes achetées par le gouvernement congolais s'est retrouvées dans les mains, n'est-ce pas, des groupes armés. Et à votre avis, quels sont les mécanismes que le gouvernement devait mettre en place pour contrôler la circulation des armes afin que cette fois-ci, ces armes n'atterrissent pas dans les mains des miliciens?
Merci beaucoup, Kim Matemoi. Je dirais, je commencerai d'abord par féliciter cette diplomatie de haute facture que notre pays a fait au niveau international pour qu'on arrive à arracher cette décision à l'unanimité au niveau de Nations Unies. Les mécanismes que notre gouvernement doit mettre en place, le gouvernement doit d'abord réorganiser l'armée. Réorganiser l'armée et essayer de contrôler des fonds à comble comment les armes doivent sortir des magasins pour aller peut-être par exemple au fond. Et je dirais aussi que Guy Maté, ça c'est vraiment un bravo pour notre pays, pour cette décision-là. Vous savez que aujourd'hui au niveau international et même à l'interne ici dans notre pays, tout le monde regarde aujourd'hui notre pays, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à cette décision qui a été prise au niveau des Nations Unies. Donc je crois qu'aujourd'hui notre pays ne doit plus croiser les bras, il doit se mettre au travail, il doit profiter de cette décision-là, mais là pour aller terminer la guerre à l'est de notre pays, et même combattre d'autres milices qui, des groupes armés au niveau interne qui dérangent la population congolaise pour vaquer à leurs occupations. Et voilà ce que je pourrais dire comme mécanisme. Donc les contrôles à fond. Il faut qu'ils contrôlent vraiment à fond la traçabilité des armes. Qui a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les magasins? On a combien de chars? On a combien de plusieurs ça? Et voilà, ça pourrait nous aider à bien organiser notre armée et aussi à mettre de paquets, mettre de l'argent pour renforcer cette armée-là, pour renforcer, comme j'avais suivi, qu'il y a des recrutements partis par là dans des différentes provinces, et renforcer cette armée-là parce qu'il n'y a aucun pays au monde, on peut parler d'un pays fort si on n'a pas une armée forte du Mali. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cet aspect.
Merci. Marcel Ngoy, levée de la mesure des notifications d'achat d'armes, que peut faire la RDC pour capitaliser cet acquis?
Un acquis très important dans l'avancée, dans l'acquisition de moyens d'assurer notre défense et sécurité. Moi, je pense que le Congo doit mettre du paquet à l'instar de tous les pays du monde qui ont été agressés, qui ont subi les mêmes sévices. Moi, je pense que le Congo doit aujourd'hui adopter un budget conséquent pour renforcer les capacités des FARDC de la police et même renforcer les capacités de contrôle de nos frontières. Et cela demande que nous puissions avoir les moyens de nos ambitions. Et nous pensons qu'un appel à la mobilisation générale tel qu'il a été lancé par le président doit être maintenant matérialisé. Je crois que c'est une barrière qui est levée sur le chemin de la reconquête de notre totale liberté. Aujourd'hui, le Congo va avoir la force et les moyens nécessaires d'imposer la paix. Je crois que l'orientation qui a été levée, celle de ne pas forcément banaliser les discussions et les négociations, mais d'accorder la priorité à la riposte chirurgicale de notre armée face à tous les groupes, je crois que c'est ce message-là qui a donné le langage qui fait aujourd'hui trembler les forces négatives. Et il faut aller jusqu'au bout de cette logique, jusqu'à se doter de tout ce qu'il faut et tourner les pays vers les autres pays amis qui peuvent aider le Congo à pouvoir laver l'affront et à reconquérir la totalité de sa souveraineté. Donc pour moi, le fait d'adopter une telle résolution offre au Congo des marges de manœuvre les plus étendues qui permettent au Congo d'engager des discussions, de contacter n'importe quel autre pays pour avoir les moyens d'assurer la défense de son territoire. Nous sommes l'unique pays autour de 9 pays limitrophes. Nous avons des frontières qui sont poreuses et n'importe quel pays voisin se permet de faire n'importe quoi chez nous. Je crois qu'il faut qu'on mette du paquet pour qu'aujourd'hui, que nous ne puissions plus continuer à subir la même chose.
Merci.
Donc pour moi, ce qui a été fait libère le Congo et offre au Congo les moyens. Aujourd'hui, le gouvernement n'a plus de prétexte pour continuer à verser de l'âme des crocodiles. Il faut maintenant faire tout, réunir les moyens, donner aux FARDC les moyens de leur politique, les former sérieusement, les équiper de façon que le moral soit au point et que demain après demain que le Congo ne soit plus un géant au pied d'argile au cœur de l'Afrique, que ça soit un Congo puissant, un géant qui dormait, qui se réveillera. Et cette fois-là, on aura un Congo qu'on peut respecter comme l'ont si bien voulu les aïeux depuis 60.
Merci beaucoup. On prend une petite pause en écoutant Adieu Angelina de Nana Mouskouri, sorti en 1967, et on revient juste après.
Cloches de la couronne ont été volées à l'aube, je les entends qui sonnent. Et je me dépêche, je dois les rattraper. Adieu, Angelina, le ciel est en feu et je m'en vais. Faire une affaire, ce n'est pas la peine d'ameuter toute la terre. C'est une table vide sur le bord de la mer. Adieu, Angelina, le ciel a tremblé, je dois m'en aller. Quitte la basse-cour, de sang bohémienne sont entrés à la cour. Dans la salle du Touba, rien ne va plus pour moi. Adieu, Angelina. Marine, le ciel s'écroule, je te verrai plus tard. Regarde ces pirates dans la Voie lactée qui tire sur des boîtes avec un canoncier. Les voisins applaudissent, poussent des cris de joie.
Adieu Angelina, de Nana Mouskouri, de son vrai nom, Iona Mouskouri, née le 13 octobre 1941 à la Canée, Crète. C'est une chanteuse grecque débutant sa carrière en 1958. Elle revendique avoir vendu au cours de sa carrière 300 millions de disques à travers le monde, s'échelonnant sur 6 décennies. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Maggie Libébélé. Elle est journaliste indépendante évoluant à Kisangani. Elle est directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM Tchopo. Benklet Kankonde, journaliste, il est éditorialiste du journal Le Potentiel paraissant à Kinshasa. Et Marcel Ngoy, journaliste, il est éditeur du journal La Prospérité paraissant aussi à Kinshasa. L'annonce par Moïse Katumbi de son départ de l'Union Sacrée et de sa candidature à la présidentielle de 2023 a également défrayé la chronique cette semaine en RDC. Lors de la clôture de la convention nationale extraordinaire de son parti, ce jeudi à Lubumbashi, Moïse Katumbi a été désigné candidat président de la République pour les élections de décembre 2023 par son parti Ensemble pour la République. C'est l'une des recommandations de ses assises. Ainsi, les organes compétents du parti sous le leadership de Moïse Katumbi sont autorisés de conclure les alliances électorales avec d'autres forces. Les partis s'engagent aussi à participer aux prochaines élections et se proposent de présenter les candidats à tous les niveaux. Pour cela, il appelle la population à participer massivement aux opérations d'enrôlement des électeurs. Une fois de plus, Ensemble pour la République a officialisé son retrait de l'Union sacrée pour la nation. Marcel Ngoy, comment vous analysez cette actualité?
Les alliances se font et se défont. Moi, je considère que le départ de Katumbi, c'est une matérialisation, une des expressions de la démocratie, la liberté. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la compétition est ouverte et que le duel est confirmé entre Moïse Katumbi et la plupart des candidats, dont le président de la République, qui est candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat. Donc ce qu'il faudra maintenant, c'est la guerre des chiffres. Qui va faire quoi pour le Congo? Qu'est-ce qu'on va atteindre comme objectif? Et en combien de temps? Avec qui? Moi, je crois que chaque candidat devra, développer un discours qui soit réaliste et développer un projet de société qui puisse être compréhensible par l'ensemble des Congolais pour convaincre. Parce qu'en fait, si les autres élections ont eu le mérite d'avoir été des élections qui ont été organisées dans des conditions connues de tous, mais cette fois-ci, je crois qu'on va renforcer le mécanisme de contrôle. Au-delà du peuple congolais qui est déjà mis en éveil lui-même, il faudra qu'on y ajoute, au fur et à mesure qu'on avance, la certification et pourquoi pas l'implication de la communauté internationale pour l'accompagnement de ces opérations, de façon qu'à la fin, qu'on puisse garantir la transparence et la traçabilité des résultats. Et donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Ce qui est important aussi est qu'il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. Il y a déjà des débats sur la congolité qu'on essaie de réveiller. Il y a beaucoup de cueils qui peuvent se présenter sur les chemins, mais il faudra que les règles de jeu soient respectées pour garantir la participation de tous les candidats et d'avoir les mêmes chances égales afin que les Congolais tranchent. 50 millions de Congolais qui sont attendus devront exercer leur choix dans le cadre, n'est-ce pas, d'un mécanisme qui soit transparent, qui garantisse la bonne fin et que le contentieux soit réduit de façon qu'on puisse dire oui, c'est elle qui a gagné et que demain, en 2024, on a un nouveau président.
Marcel Ngoy, on se rappelle que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont été parmi les premières personnalités à avoir répondu, n'est-ce pas, à l'appel du chef de l'État en 2021 pour la mise en place d'une union sacrée de la nation. Environ 2 ans après, Bemba est toujours là, mais Katumbi a décidé de partir. Est-ce que vous pouvez comprendre les raisons qui peuvent avoir causé cette séparation entre Katumbi et Tshisekedi? À votre avis, c'est quoi la pomme de discorde?
Bon, il m'est difficile d'analyser le rein d'une personne. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, parce qu'il a toujours les membres de l'ensemble pour la République qui sont au gouvernement. Il a posté à beaucoup d'endroits des personnes qui lui sont très proches. Le cas du ministre du Plan aujourd'hui qui est là, Christian Mwando. Il a beaucoup de gens, y compris le Muyindo Nzangi ici, le Lutundula. Ce sont des gens qui sont sortis de ses rangs, de ses entrailles politiques. Et donc nous pensons que même Mutinga, il est sorti des rangs de Katumbi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que pendant qu'il a les gens au gouvernement et qu'il devait en principe partager le même bilan que Félix pour avoir aligné la plupart de ses lieutenants au sein du gouvernement et qu'aujourd'hui qu'il puisse se rebiffer? Bon, il peut avoir les raisons qui sont les siennes. Ce qui est important, c'est la suite. Quelle est la suite? Il y a un processus électoral qui est engagé. L'enrôlement commence le 24. À la fin, on a autant d'électeurs. Qui aura gagné? C'est ce jour-là qu'on saura. Et quel discours? Mais aussi, il faut respecter les conditions d'éligibilité. Donc, les gens qui doivent participer aux élections doivent respecter la loi électorale qui a certainement des conditionnalités pour pouvoir être retenu comme candidat. Donc, il faudra franchir beaucoup d'étapes pour y arriver. À ce stade, on ne peut pas a priori candidat parce qu'il a tel faciès. Non, nous pensons qu'il faut garantir que la loi puisse s'appliquer dans notre pays et que nous puissions savoir qui sera candidat réellement demain. Parce que une chose est de déclarer la candidature, une autre est de respecter les conditions qui sont édictées pour que la candidature soit valable. Donc, une autre chose, ça sera la campagne, et puis ainsi de suite. Il ne suffit pas d'avoir un dollar supplémentaire qui traîne dans la maison pour dire que j'ai la capacité d'aller assouvir les appétits des uns et des autres pour pouvoir devenir président. Il faudra que demain, qu'on puisse aussi avoir des idées et les discours à présenter.
Merci.
Pour moi, il n'est pas possible aujourd'hui de dire c'est pour telle ou telle autre raison, mais les ambitions. La gestion des ambitions, c'est comme la gestion de l'air que nous respirons. C'est difficile de commencer à dire, écoutez, pourquoi aujourd'hui il s'est réveillé de bonne humeur et demain il a changé. C'est peut-être pas un mariage comme le mariage civil où il faut aller encore déchirer le certificat de mariage. Non, nous pensons que c'est le mariage politique, mariage des raisons, ça fait changer au gré des vagues. Ce qui est important, c'est la suite. Si on veut servir le Congo, on peut le servir dans l'Union sacrée, tout comme on peut se débarrasser de la casquette de l'Union sacrée, le servir même en indépendant. Ce qui est important, c'est de donner qu'est-ce qu'on veut faire pour le Congo et qu'est-ce qu'on a. Un autre Congo est possible, Kadil Katumbi l'a dit, un autre Congo est possible. Il faudra que les Congolais comprennent que demain après demain, ce ne sont pas forcément les alliances qui transforment, mais les hommes.
Merci.
Et ces hommes doivent avoir des capacités à la compétence.
Merci, Marcel Ngoï. Ben Plet Kakonde, on se rappelle comment Katumbi avait été empêché à se présenter au présidentiel de 2018. Évidemment, les contextes n'est pas les mêmes, mais est-ce qu'on peut aussi envisager un scénario où le régime actuel empêche Katumbi de présenter sa candidature?
Ce serait vraiment une très mauvaise idée. Ce serait une très mauvaise idée de créer un martyr comme ça de toutes pièces. Non, non, ce n'est pas bon. Laissons-le concourir comme tous les autres. On le connaît, c'est un homme d'affaires, prospère. Il a été tenté par la politique. Il a été coopté. Il est devenu gouverneur de province. Et derrière, l'appétit vient en mangeant. Il a pensé à devenir président de la République. C'est que il a connu des déboires avec le régime de Joseph Kabila. Donc, il ne faudrait pas en faire un martyr dans ce pays. Parce que personne ne peut, ni lui, ni un opposant à lui, ne peut aujourd'hui nous affirmer que ce sera lui le président. Il y a beaucoup de paramètres en jeu. Il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui et demain. Donc, on ne peut pas vraiment commettre l'erreur d'en faire un martyr. Laissons-le concourir. Pour autant que sa candidature respecte les conditions d'éligibilité prévues par la loi. Donc voilà. Quant au discours, moi je ne crois pas beaucoup au discours personnellement, parce que tous les discours se ressemblent. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit au pouvoir, tous les discours se ressemblent. Tout le monde prétend faire mieux que celui qui est là. Et ça, c'est depuis 60, hein, ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, c'est depuis 60. Moi, je suis né avant 60, donc je parle des choses que je connais. Donc, on ne peut pas, sur base du discours, penser qu'on a trouvé le cheval partant. Non, c'est pas vrai. Le candidat seul, lui, peut avoir de très bonnes idées. Mais les gens qui sont autour de lui vont faire en sorte qu'il n'arrive pas là où il peut arriver, parce que s'il veut arriver, s'il tient à y arriver, ce sera au détriment de leurs propres intérêts. On l'a vu, chaque président a dit, je suis mal entouré. Mais, et pourtant, c'est cet entourage-là qui s'est choisi. Chacun arrive avec ses propres intérêts, mais publiquement, il veut dire, non, non, je soutiens le président, alors que, au fond, ce n'est pas cela. Donc, voilà, moi, le niveau, le discours, ici, chez nous, en Afrique, comme il n'y a pas d'idéologie, ah, voilà, ça, c'est le maître mot. Comme il n'y a pas d'idéologie dans les partis politiques, donc, il n'y a pas de discours qui tienne. Donc, ne nous fions pas au discours. Par ailleurs, nous savons que le vote chez nous a toujours un peu cette connotation tribale, un peu proximité ethnique ou peut-être linguistique. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans le choix des candidats.
Merci.
Donc, ne perdons pas le temps à parler discours parce qu'il n'y a aucun discours qui tienne ou aucun discours qui pourra être matérialisé. Voilà pour moi.
Merci. Madame Maggie Libébélé, il est dit qu'il est difficile à un candidat de gagner seul les élections. Hein, c'est une réalité dans ces pays. Et à votre avis, quelles sont les alliances qui peuvent être envisageables? Est-il possible de voir Katumbi, Mouzito, Fayoulou et Kabila constituer un front commun et présenter un seul ticket contre les candidats du pouvoir?
Dimaté, moi je dirais d'abord que nous sommes un pays démocratique avec des lois qui donnent la liberté à des regroupements politiques, à des candidats ou aux individus de se présenter comme candidats et à tous les niveaux où il se sentira capable. Des alliances, bon, je ne serai pas vraiment à fond vous dire comment ça peut se faire. Nous savons que cet acte citoyen est toujours entouré de turbulences, est toujours entouré de beaucoup de choses. Et je sais que même si Katumbi est parti aujourd'hui de l'Union Sacrée, il y a les autres qui vont embêter les pas. Ça, vous devez en être sûr que ça va être si pas demain, après demain ou le lendemain. Mais des alliances, ça va se créer toujours. Ce n'est pas interdit aux gens ou au regroupement ou aux candidats de faire des alliances. Mais moi, je ne saurais pas exactement te dire ou avec assurance te dire que non, ils peuvent faire l'alliance pour se mettre ensemble comme de l'autre côté ils ont fait, comme la fois passée ils ont fait. Moi, je sais qu'il y a des alliances qui vont se faire, mais je ne sais pas avec qui ils vont les faire et comment ça va se faire. Voilà un peu ce que nous. Mais ce que nous demandons cette fois-ci, que comme nous sommes un pays démocratique, nous voulons que ces élections-là se passent vraiment dans la démocratie. Qu'on n'empêche pas un candidat de se représenter parce que ça va créer des frustrations et ça risque de dégénérer par des violences et ce que nous refusons. La constitution de notre pays, les lois de notre pays donnent accès à tout le monde de se présenter aux élections librement. Ce n'est pas dit que si un candidat se présente à la présidentielle, on le lit directement. Non, ça dépend de comment il va battre son campagne, ça dépend de comment il va convaincre la population pour être élu. Voilà, dit Mathieu, ce que je voulais dire par rapport à cet aspect.
Merci, et c'est par là que nous terminons. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Madame Maggie Libébélé, Monsieur Ben Eclet Kankonde et Monsieur Marcel Lengoyi. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka, Christian Lomombe, Didier Dadi et Billy Landry Betou sous la supervision de Martin Sebujango et Etienne Rougeri. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à tous nos invités et à tous les auditeurs de la Radio Capi ainsi qu'à toute la nation congolaise. C'est la dernière émission de cette année 2022. On se retrouve, si Dieu le veut, après les fêtes et on va se séparer ici avec Mama X de Blaise Boula de Wenge Musica.
Maman X, Je faisais tout pour faire coïncider mes désirs à tes besoins. Dommage qu'il manquait de générosité du cœur. N'est pas facile de faire, j'en fais ça quand même.
Thank you.